Salut à tous, bienvenue sur l'Empreinte Digitale, je suis Fabrice Lamiro. On va parler aujourd'hui marketing d'influence avec Joël Godol qui est CMO de la plateforme Ivancy. Salut Joël.
Bonjour.
Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans l'Empreinte Digitale.
Bah, c'est super gentil de me recevoir.
Avec plaisir. Alors donc je suis aujourd'hui avec Joël Godol qui est CMO de Ivancy. Alors CMO, le terme peut vous paraître un petit peu abstrait, ça veut dire Chief Marketing Officer, donc tu es directeur du marketing de la plateforme Ivancy.
Exactement.
Tu me dis si je me trompe. Hein.
Non, c'est ouais, exactement ça.
Alors je te laisse peut-être nous présenter, te présenter peut-être un petit peu en deux mots si tu veux nous donner plus de précisions te concernant et puis que tu nous parles un petit peu d'Ivancy. Alors Ivancy c'est une plateforme dédiée au marketing d'influence, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors très rapidement sur moi, j'ai 38 ans, je fais du marketing depuis un peu plus de 15 ans, j'ai toujours travaillé dans la tech et j'ai pas mal bossé dans des startups et dans des boîtes du SaaS, donc des boîtes de logiciels informatiques. Sur Ivancy, alors effectivement, on est une plateforme d'influenceurs marketing. Alors, une plateforme d'influenceurs marketing, ça allie plusieurs aspects. Il peut y avoir des plateformes qui sont purement technologiques. C'est un logiciel et qui permet de gérer l'information. Mais aussi, il y a des plateformes qui sont dites hybrides, où on apporte non seulement de la technologie, mais aussi du conseil et de la stratégie. Donc, Ivancy, ça propose l'ensemble de la collaboration sur l'influenceur marketing. Donc on a une base de données d'influenceurs sur laquelle on va pouvoir identifier les bons profils qui correspondent à votre attente en tant que marketeur, en tant que communicant. Donc on va faire du matching, ce qu'on appelle du matching, donc c'est la rencontre entre un influenceur et une marque. Et à partir de là, on va faire toute la prise de contact, la relation, automatiquement au travers du logiciel. Le suivi de la collaboration avec la publication des stories, des posts, donc tout ce qui va être contenu sur les réseaux sociaux, et le suivi de la performance. Donc toute cette chaîne de valeur qui est autour du marketing d'influence va être couverte par la plateforme et le service qui est derrière. On couvre aussi des aspects un peu plus spécifiques comme la logistique, qui peut être un aspect qu'on peut prendre en charge avec une plateforme de marketing d'influence. Ivancy aujourd'hui, pour donner un peu des idées de chiffres, c'est 80 collaborateurs, c'est plusieurs centaines de marques, donc on a 200 marques qui sont très actives en ce moment. On a une base de données influenceurs qui est de 90 000 micro-influenceurs. Donc micro-influenceurs, c'est les influenceurs qui sont de 10 000 à 100 000 followers et des nanos, donc qui sont en dessous de 200 000. On a 200 000 influenceurs qui sont des nano-influenceurs. Et on a des influenceurs dans une centaine de pays. Alors on est très présent sur la France, l'Espagne et l'Allemagne. Mais on a aussi des influenceurs dans d'autres territoires européens, en Amérique latine et aux États-Unis.
Alors c'est une belle success story, hein, Joël. Pour une boîte qui est jeune, hein, combien d'ancienneté pour Ivancy? C'est relativement récent, je crois.
On arrive tout juste à 4 ans. En 4 ans, on a fait 2 levées de fonds. On est aujourd'hui, on a au total levé 6,5 millions d'euros. Et on a effectivement une accélération qui est très rapide du fait de la solidité de la plateforme et la capacité à engranger de plus en plus d'influenceurs.
Ouais, tu parles de vitesse là. Est-ce que justement, on va parler d'actualité. Quel était l'impact quel est l'impact? On peut toujours en parler au présent. Quel est l'impact du Covid sur le secteur de l'influence?
Alors d'un point de vue entreprise, sur le secteur de l'influence, ça a été assez fort. C'est-à-dire que les entreprises ont une contraction de leur budget sur le premier mois. La difficulté de ce secteur, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs, il est assez concurrentiel côté plateforme. Donc nous, on a eu de la chance d'avoir levé des fonds très récemment, donc on a une trésorerie qui est largement suffisante. Mais on a effectivement des concurrents qui ont eu des grosses difficultés du fait des problématiques de trésorerie, de devoir maintenir les salaires. C'est quand même un secteur où il y a encore beaucoup d'interventions humaines, parce qu'il faut gérer la relation avec les influenceurs, même si une partie est automatisée. Il faut gérer la relation avec les marques et leur amener du conseil, et faire un peu la partie planning stratégique, c'est-à-dire la recommandation stratégique sur la bonne campagne pour le bon public. Et donc ça a été assez difficile. Le mois de mars a été très compliqué d'un point de vue commercial. on a senti un début de rattrapage en avril, et là on redevient une activité plus normale parce que les marques se sont très vite rendues compte que l'influenceur marketing restait un domaine sur lequel il fallait continuer d'investir. C'est un travail de fond, hein. C'est un travail qu'il faut faire toute l'année. Et c'est surtout quand on voit ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, pour aller plus précisément là-dessus, on a une activité sur les réseaux sociaux qui a explosé. On a des plateformes qui ont passé des caps de milliards d'utilisateurs comme TikTok. On a Pinterest qui a fait un retour en force, qui était une plateforme qui était plutôt en perte de vitesse et qui est revenue en force. On a Facebook qui a regagné en activité. Et puis on a aussi les publics de ces réseaux qui ont évolué. C'est-à-dire TikTok était un réseau qui était très orienté enfants, adolescents, a gagné en seniorité et donc est devenu beaucoup plus attractif pour les marques. Donc on a eu une activité des réseaux sociaux qui a été démultipliée, de plus en plus de conversations, de plus en plus de dépendance à l'information qui a été communiquée via les réseaux sociaux. Donc pour les influenceurs, plutôt une période intéressante, même si elle a amené beaucoup de contraintes sur la non-possibilité de voyager, des contraintes sur la logistique, difficile de recevoir des produits pour pouvoir raconter des histoires autour de ces produits. Mais on pense que c'est quand même quelque chose qui permet de consolider les plateformes des réseaux sociaux, les usages des réseaux sociaux. Donc ça va être un accélérateur des tendances qu'on voit de fond depuis quelques années sur l'usage des réseaux sociaux vis-à-vis de l'influenceur marketing.
Ah, c'est très intéressant ce que tu dis, Joël. Effectivement, c'est intéressant de constater l'évolution à la fois des réseaux sociaux, hein, tu l'as dit, hein, TikTok qui gagne en maturité, Pinterest qui reprend un petit peu du poil de la bête, Facebook aussi, et puis de voir un peu l'évolution des influenceurs aussi, à la fois des consommateurs et puis de ceux qui produisent du contenu. Alors les marques, comme tu le précises, hein, elles ont toujours un intérêt, effectivement, peut-être même de plus en plus, à travailler avec ces influenceurs. Alors, pour ceux qui nous écouteraient, qui se poseraient encore la question, quel est l'intérêt pour ces marques, justement, d'utiliser le marketing d'influence?
En fait, le marketing d'influence, ça peut servir plusieurs objectifs. Donc, on peut avoir des objectifs qui sont très héroïstes, c'est-à-dire avec un objectif de revenu. Donc, typiquement, faire venir les gens en boutique, en restaurant ou sur mon site internet. Mais on peut avoir aussi des objectifs qui sont plus autour de l'image de marque, la brand awareness. Donc deux aspects, la notoriété, comment faire connaître ma marque, mais aussi l'aspect perception de la marque. Utiliser les influenceurs marketing peut permettre de faire changer l'image d'une marque, de la rajeunir, de lui redonner ses lettres de noblesse suite à une crise. Donc ça fait partie des leviers qu'on peut utiliser. L'intérêt du marketing d'influence est d'amener de la proximité et de l'authenticité dans les messages. Comme ce n'est pas la marque qui s'exprime en direct, on passe par des proxys. Ces personnes ont une connaissance de leur audience, ont une relation privilégiée avec leur audience et sont aussi vues comme expertes de certains sujets. L'intérêt du marketing influence, c'est qu'on va activer ces personnes qui ont déjà des audiences, qui ont déjà une expertise pour promouvoir un produit, un service ou une marque. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre aux marques qui se rendent compte que la communication de masse, type publicité classique, marche de moins en moins. On a besoin d'avoir plus d'engagement vis-à-vis des marques, vis-à-vis des communications. Donc on a besoin d'avoir des messages de plus en plus ciblés, finement. On le voit aussi dans les usages et dans l'approche, prenons Facebook par exemple. Facebook a promu depuis quelques années le concept de communauté. Il n'est plus question de parler juste à sa famille, à ses amis ou à n'importe qui. Il est question de parler à une communauté. Ces communautés se regroupent autour de centres d'intérêt et c'est ce qu'on va activer avec le marketing influence, c'est qu'on va aller parler à des communautés de centres d'intérêt. Et l'avantage, c'est qu'on le fait via un ambassadeur qui est l'influenceur. Ce qui va être aussi intéressant avec le marketing d'influence, c'est qu'on va multiplier les points de contact parce qu'une campagne de marketing d'influence ne va pas se limiter à un seul ambassadeur. On peut passer par un ambassadeur qui est quelqu'un qui peut être une célébrité ou un macro-influenceur, donc quelqu'un qui a une communauté de plus de 100 000 followers. Mais on peut parler à des dizaines, voire des centaines d'influenceurs, d'ambassadeurs, et activer ce réseau qui va faire qu'une personne qui s'intéresse à une thématique qui est peut-être en contact avec 1, 2, 3, 4 personnes sur ce réseau va avoir autant de fois le message avec un angle différent, parce qu'il ne faut pas oublier que les influenceurs sont avant tout des créateurs de contenu. C'est des personnes qui mettent de l'effort, qui mettent de la recherche pour créer des contenus qui sont plus ou moins créatifs, mais qui demandent une certaine personnalisation. C'est eux, c'est leur message, c'est leur façon de transmettre le message. Donc ça, c'est un intérêt très intéressant pour les marques, parce qu'on a la répétition d'un côté, on a l'ultra-ciblage de l'autre, et la combinaison des deux permet de toucher des nouveaux publics.
C'est tout l'intérêt, comme tu le dis, pour les marques, on comprend bien, hein, quand on t'écoute, ça leur permet de toucher à la fois d'autres communautés, hein, un public un peu plus large, peut-être au-delà de la cible qui est la leur traditionnellement. C'est également, donc cet influenceur joue un peu le rôle de tiers de confiance aussi, il apporte un regard nouveau sur la marque et ses produits, et puis également, comme tu le précises, ça permet un petit peu aussi de toucher cette génération adblockers, les plus jeunes notamment ont toujours ces petits logiciels qui permettent de bloquer la pub, ça permet aux marques malgré tout de pouvoir toucher un public à travers des contenus qui sont un peu différents, qui sont beaucoup plus originaux qu'une pub de marketing assez classique, hein. Alors, est-ce que tous les secteurs d'activité sont concernés aujourd'hui par le marketing d'influence? Est-ce que tous les secteurs peuvent utiliser ce type de stratégie?
Alors, dans l'absolu, oui, tous les secteurs peuvent l'utiliser. La réalité du marché aujourd'hui, et particulièrement en France, mais on voit quand même des tendances similaires dans les autres pays, c'est qu'il y a des secteurs qui ont une maturité beaucoup plus forte. La mode, la cosmétique, la food. Alors, la food, ça inclut les différents groupes agroalimentaires, les marques qui se lancent au niveau des produits alimentaires, mais aussi la restauration. La restauration était un acteur très très fort du marketing d'influence, principalement pour promouvoir très localement et cibler très localement des restaurants et des populations autour de la zone de chalandise de ces restaurants. Alors avec le Covid, c'est le secteur qui a été très fortement impacté et qui a fait que l'activité s'est ralenti fortement là-dessus. Et puis on a la grande consommation. Mais on trouve aussi d'autres secteurs, comme le jeu vidéo et l'entertainment de manière plus large, la santé, le bien-être, le sport, fitness, etc. Donc, on trouve globalement l'ensemble des secteurs, on trouve pas l'industrie, clairement. Et il y a une règle générale qui est assez simple à noter, c'est les secteurs qui avaient l'habitude de s'appuyer sur des célébrités en tant qu'ambassadeurs de marque ou ambassadrices de marque, ils ont complété, voire remplacé leur dispositif par de l'influence. Donc tout secteur qui était enclin à utiliser un ambassadeur de marque, une célébrité, est passé sur l'influence. C'est pour ça qu'on retrouve la mode, la cosmétique très fortement sur ces sujets. La food, c'est un peu plus particulier, c'est qu'aujourd'hui, il y a un plus grand marketing de la marque food, de tout ce qui est alimentaire, qui avant était vendu comme des produits de première nécessité. Aujourd'hui, on leur donne une certaine attractivité, on fait un effort beaucoup plus fort sur le branding, et c'est là où on voit la différence et pourquoi ce secteur prend de la vitesse.
Alors tu dis que l'industrie est un petit peu moins friande de marketing d'influence, c'est vrai que j'ai pas trop d'exemples en tête de campagne marketing d'influence sur cette thématique-là. En termes de B2B justement, est-ce que il y a une part de marché possible sur le marketing d'influence? Il y a des leviers d'activation envisageables ou pas?
Alors, le B2B, ça reste un domaine un petit peu à part. Pour l'instant, nous, en tant qu'IVNC, on ne l'adresse pas. Et il y a très peu d'offres sur le marché, sur le sujet. On a de l'approche directe qui se fait entre les marques et des influenceurs. Donc, il y a très peu d'intermédiation. Pour moi, je pense que le potentiel, il existe. Mais la difficulté de ce secteur, c'est que les échelles sont très, très loin de ce qu'on peut faire en B2C. Donc, sur le marketing auprès des consommateurs et des clients versus les entreprises et tout ce qui est B2B, on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes échelles. Donc pour le moment, on va s'imiter sur le secteur du B2B, ça va être plutôt de la macro-influence, donc on va plutôt parler à des gens qui sont des orateurs, qui ont l'habitude de faire des interventions dans des conférences, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, et donc qui sont pas forcément très adaptés au marketing d'influence dont on a plus l'habitude sur le B2C. On peut avoir du B2B parfois sur des campagnes d'avis. Donc on le voit sur des campagnes d'avis principalement sur du logiciel, sur du SaaS. Donc sur des logiciels informatiques, on trouve ces campagnes d'avis et d'influence. On le trouve beaucoup moins sur d'autres secteurs du B2B. Après, je pense que c'est aussi lié à la faible maturité de la notion de personal branding. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on prend des professionnels. On est encore très peu nombreux à avoir des blogs, à faire des publications régulières sur LinkedIn, à avoir des podcasts personnels. Hein. ça reste quand même des phénomènes très rares et on voit cette accélération depuis quelques mois. Je pense que le confinement a aidé à créer les vocations et puis à libérer le temps et à mettre des conditions favorables pour cette création de contenu. Mais aujourd'hui, dans la culture française, c'est pas quelque chose qu'on a très fortement d'un point de vue professionnel.
En effet. Ouais. Alors, je suis une marque, justement. Je veux changer mon fusil d'épaule, peut-être suite au Covid. J'ai peut-être besoin de relancer mon activité ou simplement les affaires vont très bien, mais j'ai envie de saisir l'opportunité qui s'offre à moi avec le marketing d'influence. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier les micros, donc les petits, hein, les petits influenceurs en général, les nanos ou les micros, ou est-ce qu'il faut plutôt aller chercher des influenceurs qui ont déjà des tailles de communauté très importantes?
Bon, forcément, moi, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais je pense qu'il y a une réalité du marketing d'influence, c'est qu'aujourd'hui, le marketing d'influence, comme on l'a dit tout à l'heure, sert plusieurs objectifs. Quand on est sur des objectifs de notoriété de marque pure, passer sur de la macro-influence ou des influenceurs stars, ça fait sens. Par contre, c'est une problématique de répétition des messages. Donc, ça veut dire qu'il faut être sur de la macro-influence et s'assurer que ce partenariat avec ce macro-influenceur a lieu toute l'année et qu'il y a plusieurs occasions de prise de parole. Donc, ça demande un travail qui est beaucoup plus, on va dire, complexe sur le plan marketing dédié à ce macro-influenceur. Mais de manière générale, il y a une réalité des chiffres, c'est que la micro et la nano-influence génèrent plus d'engagement. Pour donner une idée des chiffres, le taux d'engagement d'un macro-influenceur il est d'environ 1,1%. Sur des micro-influenceurs et des nano-influenceurs, on est plus proche de 7%.
C'est sur quel type de plateforme, Joël? C'est quoi? C'est Instagram essentiellement ou...
Alors aujourd'hui, c'est plutôt sur Instagram. C'est les chiffres qu'on trouve sur Instagram. Donc on est à 7% pour de la micro et de la nano et 1% pour de la macro. Donc il n'y a pas photo, hein. Mais si votre objectif est de créer de la notoriété, potentiellement vous allez toucher beaucoup plus de personnes avec du macro, avec la problématique d'authenticité, de relation avec cette personne. Donc, il faut vraiment faire un ambassadeur. C'est l'égérie de votre marque. Donc, on peut pas en avoir 50. On doit travailler avec cette personne toute l'année. Il faut avoir plein de points de contact, plein d'événements. Donc, ça demande une vraie construction. Sur de la micro, de la nano, on peut changer très régulièrement d'influenceur. On peut avoir quelque chose qui est plus ponctuel, même si il est conseillé de faire un effort tout au long de l'année. Donc, forcément privilégier la micro et la nano pour créer de l'engagement, créer de la conversion, ça fait plus de sens que de passer par de la macro.
D'accord, donc plutôt les macro-influenceurs, alors donc on les transforme en ambassadeurs pour faire vraiment de la notoriété, de la visibilité. Par contre, si on veut vraiment de l'engagement, si on veut des échanges à valeur ajoutée, on va plutôt aller cibler des petits influenceurs, hein, enfin des petits entre guillemets.
Exactement, la micro et la nano, ça, on a vu quelques-uns des bénéfices, mais ça, on peut aller augmenter des communautés, on peut aller générer de l'acte d'achat, on peut générer vraiment du reach parce qu'on a des effets quand même de toucher un premier cercle qui est la communauté de l'influenceur, un deuxième cercle qui est les amis de la communauté de l'influenceur, et puis un troisième cercle qui est le mass market, donc le grand public. Et ça, c'est un effet qui va se faire uniquement via les micros et les nanos, parce qu'il y a cet engagement, donc les personnes vont reprendre les contenus, les rediffuser, ce qui ne va pas être le cas de quelqu'un qui va suivre un macro-influenceur.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de campagnes que vous avez pu mener, peut-être chez Avency, ou des campagnes que tu as vues par ailleurs et que tu as appréciées?
Nous aujourd'hui, on travaille avec plein de marques différentes. On fait régulièrement des études de cas, donc on se rapproche de ces marques pour justement avoir un peu l'histoire derrière, le pourquoi du comment, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Donc on a travaillé avec Michel Augustin, qui est une marque qui s'est quand même construite très fortement autour des réseaux sociaux, autour de son image humoristique, son traitement du secteur de l'alimentaire. Et on a fait une campagne avec eux qui a eu une portée de 400 000 personnes avec un taux d'engagement qui était à plus de 6%. Donc quand même un très fort engagement de cette communauté, mais aussi lié à la puissance de la marque, hein. Il faut pas se mentir. Donc on a travaillé aussi avec Pylon, Pylon, c'est ces magasins, ils font aussi de la vente à distance, qui créent des objets
très colorés.
Très colorés, ouais. Donc ils ont vraiment une identité de marque très créative et qui, eux, ont utilisé les influenceurs pour les transformer en ambassadeurs de marque. Et aujourd'hui, ils ont, grâce à des campagnes de micro et de nano-influence, identifié des influenceurs avec qui ils travaillent toute l'année, avec qui ils font des collaborations pour promouvoir leur nouvelle tagline, donc leur nouveau slogan, pour pouvoir parler des nouvelles gammes, de leur nouvelle approche produit, et ça avec des taux d'engagement qui restent aussi au-dessus de 6%. On travaille avec l'Occitane en Provence, ça fait quelques années qu'on travaille avec l'Occitane, et qui eux aussi ont développé un réseau d'influenceurs. Donc le travail de fond qu'on fait avec une multiplication de campagnes tout au long de l'année fait que après les marques ont des personnes fidèles parmi leurs influenceurs qui vont faire des collaborations régulières, et il y a une attente aussi de la communauté de découvrir les nouveautés d'une marque au travers de l'influenceur pour pouvoir aussi faire le tri de ce qui est un bon match avec leurs attentes de l'ensemble des produits qui peuvent sortir sous la marque.
Le budget type d'une campagne, c'est quoi, Joël, grosso modo, hein, histoire d'avoir une petite idée, je veux me lancer en marketing d'influence, c'est quoi le budget que je dois allouer pour ça?
Aujourd'hui, il y a deux approches, hein, on va dire, il y a trois approches sur le marketing influence. Il y a l'approche passée par une plateforme, donc plutôt la partie, on va dire, technologique, base de données, gestion CRM, donc la relation avec les influenceurs et leur communauté. On va avoir une approche qui va être via des agences. Donc, il y a des agences qui travaillent avec des influenceurs qui font partie de leur réseau, qui sont plutôt des macro-influenceurs. Et puis, il y a le travail en direct. Sur la partie plateforme, la plupart des acteurs ont des modèles illimités, c'est-à-dire vous prenez un abonnement et vous pouvez faire autant de campagnes que vous le souhaitez. Donc, la plupart des abonnements commencent autour de 1 000 euros par mois. Donc, c'est des abonnements annuels, hein, donc faut payer, ça fait donc 12 000 euros l'année, et qui donne accès aux influenceurs, au suivi, à la gestion, à la recommandation stratégique. Donc, c'est quand même un package qui est assez solide et assez complet. Et là, on parle de plateformes sur lesquelles il ne faut pas oublier certains coûts, d'accord ? Parce que quand on fait du marketing influence, il faut identifier les influenceurs, donc ça, c'est un coût homme. Il faut qu'on rentre en contact, on convertit pas toutes les personnes à qui qu'on contacte sur les réseaux sociaux. Il faut négocier le contrat, donc il y a un aspect légal. Il faut discuter de la rémunération et de la dotation. Donc nous, aujourd'hui, on travaille plutôt en dotation, on fait pas de la rémunération. Il y a des intérêts à faire de la rémunération et de la dotation. Globalement, la dotation, nous, c'est quelque chose qu'on a privilégié parce que ça permet de simplifier la relation, parce qu'on parle pas d'argent, de valider l'affinité. Si un influenceur parle d'un produit juste parce qu'il a eu gratuitement, c'est quand même qu'il y a un intérêt versus à être payé pour le faire. Et puis, ça renforce l'authenticité parce que c'est une vraie expérience produit que la personne vit. Donc, il y a ce côté découverte et ça, les publics des influenceurs aiment beaucoup. En plus du coût de la dotation ou de la rémunération, il y a la logistique. Il faut envoyer les produits. Il y a toute la partie reporting. Il faut analyser la donnée et en sortir des apprentissages. Donc tout cela, c'est un coût individuel qui est assez conséquent en euros ou en hommes. Pour donner une idée plus précise, une campagne de marketing d'influence, en moyenne, en France, c'est pour travailler avec une célébrité, la moyenne c'est 46 000 euros pour une campagne. Pour travailler avec des influenceurs un peu plus petits, donc des micros, on est à donc on passe de 46 000 à 40 000. Et quand on est sur encore plus petit, on est autour de 35 000 euros. Donc si vous le faites en direct, si vous le faites avec de la rémunération, vous avez des coûts qui sont assez conséquents. Mais c'est aussi du one-off, c'est-à-dire que vous le faites une fois, vous êtes engagé sur une campagne, vous allez mécaniquement mieux sûrement la promouvoir parce que vous avez investi beaucoup d'argent. À côté de ça, on se rend compte que ces efforts qu'on peut faire ponctuellement ne sont pas suffisants et ils vont faire qu'on va avoir un effet un petit peu feu de paille, hein. Donc on va avoir un résultat tout de suite, mais derrière, on va pas avoir capitalisé avec l'audience. Les personnes qui nous ont suivis ou qui ont interagi avec nous à ce moment-là, on va être chassé par une autre marque parce que ce macro-influenceur, ce micro-influenceur, cette célébrité à qui on n'a pas créé la relation parce qu'on a fait une seule campagne, va aller travailler avec une autre marque parce qu'ils sont désirables, hein. Donc nous, on recommande vraiment de passer sur un travail annuel, donc sur un budget annualisé. Et donc un budget annualisé, ça va être entre 12 000 et on va dire 45 000 euros, mais avec un nombre de campagnes illimité, mais en parlant à des typologies qui sont plutôt de la nano et de la micro-influence. Vous pouvez compléter ça avec des campagnes avec des influenceurs qui sont macro, mais là, on va rentrer dans les coûts qu'on a évoqués de plusieurs au-dessus de 45 000 euros.
Alors, c'est vrai que ça peut être des budgets importants hein, quand on parle en données brutes comme ça, mais le principe, c'est de l'investissement. Donc, si on dépense de l'argent, c'est pour que ça nous rapporte plus ensuite. C'est quoi le retour sur investissement, le ROI général sur une opération d'influence? Alors, j'imagine que c'est très varié, mais...
C'est très varié. Le ROI, il varie en fonction de votre objectif. On dit que le marketing d'influence génère 11 fois plus de ROI que la publicité conventionnelle, donc la publicité télé. Mais le ROI que vous allez calculer, ça peut être la valeur média que vous allez économiser. Donc ça, c'est un ROI qui est assez simple à calculer. C'est ce qu'on fait en relation presse. Hein. Quand on a un article qui apparaît dans une publication, on est capable d'en sortir une valeur. Ben, en influence marketing, on fait la même chose. On peut avoir de la valeur média, d'équivalent à achat média. On a la conversion pure, donc l'achat qui est généré. Donc ça, on le fait en général grâce au couponing. Donc on donne des bons de réduction et on est capable de mesurer la conversion grâce à ça. On va avoir après des impacts sur le nombre de followers, donc le nombre d'abonnés sur mes pages, le nombre de visiteurs sur mes pages. Mais tout ça, c'est des ROI qui sont plutôt long terme, donc c'est assez dur à mesurer. Donc on a, nous aujourd'hui, des marques qui reviennent tous les ans, qui font plusieurs campagnes, parce qu'aujourd'hui, elles trouvent un ROI au niveau aussi de la conversion directe, au niveau de ce qu'on appelle le drive to store, donc faire venir les gens en magasin. Et le drive to store peut se convertir en magasin, mais aussi en magasin virtuel. Hein. Il y a aussi le e-commerce. Donc tout ce que moi je peux vous donner comme information, parce que c'est très variable, je peux pas vous sortir une moyenne parce que on a chaque jour en simultané, on doit avoir une quinzaine ou une trentaine de campagnes juste en France. Savoir quels sont les objectifs et les résultats de chacun, c'est très compliqué.
Très bien, merci Joël. Ben effectivement, on comprend bien que c'est un nouveau canal de communication pour les marques. On avait la presse, la radio, l'affichage, etc. On avait les réseaux sociaux, mais en parallèle, on a également dorénavant le canal du marketing d'influence, qui est vraiment un canal à part entière. Alors aujourd'hui, ça s'exprime surtout sur les réseaux sociaux. Demain, peut-être qu'on va retrouver ces influenceurs via d'autres plateformes, d'autres supports, et c'est quelque chose qui va peut-être tendre à évoluer également dans le futur. Merci beaucoup Joël, en tout cas.
Merci à toi Fabrice.
C'est quoi le futur d'Avency dans les prochains mois? Vous avez des projets, vous avez des opérations à mettre en place peut-être? Un développement en Europe ou autre?
On a pas mal de projets. C'est toujours la beauté de travailler dans une start-up qui est en très forte croissance et qu'on a des fondateurs qui sont passionnés par le secteur et qui ont envie de faire tout très vite. Et on a des équipes qui se mettent en place pour pouvoir livrer cette vision. Nous, très concrètement, on est en train d'augmenter nos équipes. Donc, on est à peu près 80 personnes aujourd'hui. L'idée, c'est en fin d'année d'être autour d'une centaine. Donc, on a forcément ralenti un peu nos plans de recrutement par rapport au Covid. On a des ouvertures pays. Donc, on s'intéresse à quelques territoires en Europe, mais aussi au-delà de l'Atlantique. Donc, pas aux États-Unis encore, mais plutôt dans d'autres territoires. On a, d'un point de vue produit, des nouvelles fonctionnalités. Donc on a mis en place un outil qui s'appelle la recherche externe, qui permet d'avoir accès à tous les influenceurs du monde, donc pas forcément des influenceurs qui sont inscrits chez nous, mais aussi à des influenceurs qu'on peut détecter grâce à nos algorithmes. On est en train de lancer plus de réseaux sur lesquels on peut faire des campagnes. Donc on suit aussi les évolutions des plateformes. Si vous avez vu pendant les mois qui sont passés, on a eu de nouveaux formats qui sont sortis sur Facebook, qui sont sortis sur Instagram, qui sont sortis pour aussi s'adapter à la concurrence de TikTok. Hein. Donc nous, on doit suivre ces mécaniques. Et puis, on a un travail de fond sur l'amélioration de tout ce qu'on appelle le matching, donc la capacité à identifier les bons profils. Donc ça, c'est un travail qu'on fait. Alors, une des spécificités aussi d'INC, c'est qu'on travaille avec deux publics, on travaille avec les marques, donc on a un produit à destination des marques, mais on a aussi un produit à destination des influenceurs et des consommateurs, qui nous permet de gérer les collaborations. Et on a récemment racheté une entreprise qui s'appelle Lucette, qui fait ce qu'on appelle du sampling. Donc, on envoie des produits à un grand nombre de consommateurs ou consommatrices et on leur demande d'enregistrer des avis. Donc, aujourd'hui, on fait des avis augmentés. Donc, c'est des avis audio ou vidéo sur des tests produits. Et c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus. La vision quand même d'Ivancy dans les années à venir, c'est de se positionner beaucoup plus fortement sur les avis consommateurs avec la valeur ajoutée de l'expertise au travers des influenceurs et de l'authenticité au travers du format de l'avis augmenté. Donc nous, on ne croit pas aux 5 étoiles, aux 4 étoiles, aux 3 étoiles sur les produits. On croit à l'expérience consommateur traduite via une vidéo, via un texte, via un contenu à forte valeur ajoutée pour vraiment donner le sentiment de quelle est l'expérience que moi, consommateur, moi, influenceur, j'ai eue avec le produit, avec le service. Donc c'est ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui.
Ah ben merci Joël. Alors si vous souhaitez travailler peut-être avec Ivancy, si vous souhaitez en savoir plus, je vais vous mettre les coordonnées en bas du podcast. Vous pourrez avoir le lien vers la plateforme, c'est ivancy.com. Tu as juste évoqué un moment que vous allez passer de 80 collaborateurs à une centaine. Est-ce que tu peux nous dire quel profil vous recherchez, si des fois certains de nos auditeurs seraient intéressés par vous contacter?
Alors aujourd'hui, on renforce toutes les équipes. On renforce principalement les équipes commerciales et accompagnement. Donc, on cherche toujours des customer success, donc des accompagnateurs projets, donc des personnes qui ont des profils qui viennent d'agences, qui ont des expertises aussi en recommandations stratégiques. On cherche des marketeurs. Donc, moi, je renforce mon équipe avec du traffic management, avec du growth hacking, avec aussi des métiers dédiés aux communautés. Donc, par exemple, on a mis en place une équipe community qui est en charge de parler aux influenceurs et de les animer et d'en recruter dans les pays. Donc, je cherche des personnes en Espagne, en Allemagne et en France pour gérer la communauté, parler avec la communauté. Et puis, on a des métiers plus techniques. Donc, on a des développeurs, on cherche des seniors développeurs. Donc, toutes nos annonces, elles sont sur notre site, sur notre page LinkedIn et puis aussi sur Welcome to the Jungle.
Bon, bah, j'espère que peut-être que certains de nos auditeurs auront été intéressés par ta présentation, ça j'en doute pas. En tout cas, c'était super intéressant. Peut-être certains voudront vous rejoindre, donc dans ces cas-là, vous aurez les coordonnées aussi à la suite de ce podcast, bien entendu, si vous souhaitez rejoindre cette plateforme. Ils sont sur Paris, hein, en plein centre de Paris. C'est juste à côté de l'Hôtel de Ville, pour ceux qui connaissent, Paris 4e. Donc voilà, je vous laisse le soin de rentrer en contact avec Ivancy si vous êtes intéressé par cette proposition. Joël, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci vraiment pour cet échange, tu nous as appris beaucoup de choses. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la plateforme aussi. Et puis à ce moment-là, on aura le plaisir de continuer les échanges. En tout cas, on a vu avec Joël que le marketing d'influence, c'est quelque chose qui va croissant pour les entreprises. C'est très important à regarder en termes de communication. Il y a des potentiels incroyables. C'est pas gratuit, évidemment, ça coûte un petit peu d'argent, mais ce qui a de la valeur à un prix, et effectivement, on parle pas forcément de dépenses, il y a des retours sur investissement qui sont quand même plutôt intéressants. Je vous remercie. Merci Joël, je te souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à très bientôt sur l'empreinte digitale. À bientôt.